Deutsche Welle. Carrefour Europe.
Bonjour à toutes et à tous. Un dessous de table pour décrocher un marché public, un pot de vin pour obtenir les faveurs d'un politique ou même d'un journaliste, un billet discrètement glissé dans une poche pour de meilleurs soins médicaux. Et oui, la corruption existe partout aussi en Europe et elle coûte très cher. Tenez-vous bien, 120 milliards d'euros par an. C'est ce que révèle le rapport anticorruption présenté par la Commission européenne. L'UE face au défi de la corruption, c'est le thème de cette émission Carrefour Europe. Au micro, Katia Beach, bienvenue à tous.
J'ai dit non, 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 fatigué, fatigué par la corruption, vraiment désolé, vraiment fatigué, non, 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 partout en Afrique, c'est la même histoire.
Et non, il faut bien le dire, le phénomène n'est pas spécifique à l'Afrique. D'ailleurs, aucun des 28 pays membres de l'Union européenne n'est épargné par la corruption, pas même l'Allemagne. Cecilia Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures, présentait le mois dernier le premier rapport anti-corruption. Et les conclusions ne sont pas très réjouissantes. Je vous propose de l'écouter.
Corruption erodes trust in public institutions and democracy.
La corruption sape la confiance des citoyens dans les institutions publiques et démocratiques. Elle nuit à l'économie européenne et prive les pouvoirs publics des recettes fiscales dont ils ont cruellement besoin. Et dans de nombreux cas, elle permet aux organisations criminelles de blanchir de l'argent sale. Selon les estimations, le coût de la corruption dépasse les 120 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du budget annuel de l'Union. C'est donc une grosse somme d'argent dont on parle. Le sondage réalisé dans le même temps montre que les Européens se sentent très concernés. 76% pensent que la corruption est un phénomène très répandu et plus de la moitié des Européens pensent que le niveau de corruption dans leur pays a augmenté au cours des trois dernières années. Un Européen sur 12 y a d'ailleurs été personnellement confronté au cours de l'année et 20% des entreprises y voient un obstacle à l'investissement dans l'Union européenne. Le rapport montre clairement que le degré de corruption varie d'un pays à un autre, mais il montre aussi que tous les pays sont concernés.
Cecilia Malmström, commissaire européenne aux affaires intérieures. Le rapport anticorruption de la Commission ne fait pas de classification entre les pays. Il s'agit bien évidemment d'éviter un incident diplomatique. Mais tout de même, certains pays sont pointés du doigt. C'est le cas de la Croatie, la République tchèque, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie qui apparaissent comme les plus mauvais élèves de l'Union européenne dans la lutte contre la corruption. Plus inquiétant encore, la Grèce. Selon une enquête de Transparency International, la perception de la corruption en Grèce atteint 99%. Notre correspondant à Athènes, Thomas Jacobi, s'est intéressé de plus près au phénomène. Reportage.
Le téléphone n'arrête pas de sonner. Nous sommes dans les bureaux de l'organisation non gouvernementale Transparency International, en plein centre d'Athènes, qui lutte contre la corruption. En composant anonymement le 10 190, les citoyens grecs peuvent dénoncer des cas de corruption.
35% des cas de corruption dénoncés concernent les services municipaux. 31% concernent des médecins dans des hôpitaux qui demandent une enveloppe. À peu près 20% proviennent de lieux de travail où les lois ne sont pas respectées. 10% concernent des citoyens qui reçoivent des primes ou retraites sans y avoir droit et 4% des violations diverses.
Cela fait 5 mois que ce service existe en Grèce, alors que dans le reste de l'Europe, cette ligne de téléphone existe depuis plus de 10 ans. Pour Konstantinos Bakouris, président de Transparency International en Grèce, ce retard est l'essence même du problème.
La corruption n'est pas spécifique à la Grèce. Elle existe partout. Le problème ici, c'est le degré de pénétration et l'ampleur que cela a pris au cours des 40 dernières années. Cela nécessite un sérieux redressement.
En fait, pour Konstantinos Bakouris, dénoncer c'est bien, mais réformer c'est mieux.
À long terme, ce qu'il nous faut, c'est former de meilleurs citoyens et de meilleurs dirigeants dans tous les domaines de la société, parce que les changements dans le comportement se font grâce aux bons exemples. En encourageant ces nouveaux comportements, on pourra peut-être former de meilleurs citoyens, parce que même avec les meilleures lois, même si elles sont correctement appliquées, tant qu'on n'aura pas de meilleurs citoyens, la bataille à long terme ne pourra être gagnée.
À quelques rues de là, à 500 mètres du Parlement, les bureaux de l'inspecteur des impôts Dimitri Damaskos, en première ligne du combat contre la corruption.
Personne ne prétend qu'il n'y a pas de corruption. La vraie question, c'est pourquoi on ne se donne pas les moyens pour l'éradiquer. Nous sommes les derniers à nier que ça existe chez nous. Bien sûr que ça existe, chez nous comme ailleurs, comme dans tous les autres pays. Mais ça existe là où le gouvernement laisse faire. Nous sommes les premiers, nous, fonctionnaires des impôts, à ne pas vouloir de cette ombre au-dessus de nous. Mais nous voulons que ceux qui sont corrompus soient au moins licenciés, à défaut d'aller en prison. C'est pourquoi nous exigeons du ministère des mesures précises, et cela depuis au moins 3 ans, que soit établie en parfaite transparence et en intégralité l'origine de la fortune de chaque fonctionnaire des services des impôts et de chaque membre de sa famille. Nous le demandons nous-mêmes pour nous, pas pour les autres, mais en vain, le ministère ne fait rien.
Il n'y a pas que le gouvernement grec qui y met de la mauvaise volonté. Petros Linardos, chercheur économiste de l'Institut du monde du travail, dénonce, lui, les responsables européens qui s'accommodaient fort bien de cette situation.
Il y a eu beaucoup d'argent européen qui est venu vers la Grèce, des pourcentages qui allaient 4-5% du PIB chaque année, c'est énorme. Mon expérience à l'Institut du travail de la Confédération générale des syndicats m'a appris que les représentants de la Commission européenne étaient tout à fait au courant des relations clientélistes qui existaient entre le pouvoir politique et les intérêts économiques. Ce cache-cache avec la corruption en Grèce fait partie de l'attitude de la Commission et des États européens qui vendaient à la Grèce des armes, des voitures et divers produits manufacturés. Ils disaient, bon, on donne de l'argent aux Grecs, on leur prête après, on leur prête de l'argent. Ils vont utiliser cet argent pour consommer plus des produits que nous produisons. Mais tout le monde savait, évidemment, qu'il y avait ces rapports clientélistes, que ces problèmes existaient.
Depuis le début de la crise, plusieurs scandales de corruption ont éclaté en Grèce. On a procédé à des arrestations et même à des incarcérations. L'ancien ministre de la Défense, des gradés, des banquiers, des hommes d'affaires, un religieux, ont été inculpés pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Cette semaine, c'est le ministre des Affaires étrangères qui passe sur la sellette. 9 millions d'euros auraient disparu au bénéfice d'ONG fantômes. L'enquête est en cours. D'Athènes pour la Deutsche Welle, Thomas Jacobi.
Le Danemark, la Finlande, le Luxembourg et la Suède sont toujours, selon Transparency International, les moins touchés par le sentiment de corruption. Mais si le Danemark fait partie des meilleurs élèves, un Danois sur 4 estime tout de même que la corruption est présente. Aucun pays ne peut donc se targuer d'être un modèle de vertu. Et il reste du chemin à faire, c'est ce que confirme Michele Cercone, le porte-parole de la commissaire européenne aux affaires intérieures. Il est interrogé par Anne-Claude Martin.
Nous avons examiné tous les 28 États membres de l'Union européenne et on a vu que chaque pays pourrait certainement faire plus pour combattre plus efficacement la corruption.
Quelles sont les formes de corruption les plus courantes ?
La corruption peut avoir différentes formes et différents impacts. On peut dire que les pots de vin pour s'assurer des marchés publics sont un des éléments qu'on retrouve plus couramment. Les cas de corruption dans lesquels des fonctionnaires publics qui sont en charge de la vérification ferment les yeux devant certaines irrégularités. Mais ce qui émerge aussi du rapport, c'est qu'il y a un lien parfois très étroit entre une corruption liée à la criminalité organisée quand il s'agit des grands marchés publics.
Dans les États membres, il y a des moyens pour lutter contre la corruption, mais les résultats ne sont pas toujours efficaces, c'est ce qu'on peut lire dans le rapport. Alors, comment vous pouvez expliquer cela ?
Première chose, on ne peut pas généraliser. Il y a des États membres où la lutte contre la corruption est plus efficace. Nous avons néanmoins remarqué que souvent, le problème est la mise en œuvre et après, les pas concrets de vérifier et amener les personnes qui sont responsables de la corruption devant un tribunal.
Pourquoi ne pas avoir établi de classification par pays dans le rapport ?
Ce n'est pas le rôle du rapport ni de la Commission européenne de faire des classements au niveau de la corruption. Ce que nous avons obtenu à nos yeux, c'est un système de vérification de la situation pour chaque État membre. Ça nous a permis d'avoir une analyse par pays extrêmement détaillée, mais ça nous a aussi permis d'avoir une série de suggestions pour chaque État membre sur comment améliorer la lutte contre la corruption. Les critères d'évaluation sont différents et donc ça n'aurait pas trop de sens de faire des comparaisons entre les pays.
Quelles sont les priorités pour lutter contre la corruption ?
Il faut les États membres se concentrent plus sur la phase des mises en œuvre de la législation anticorruption. Il faut aussi faire plus d'attention à la corruption au niveau régional et local. Et il faut des règles claires et transparentes quand il s'agit des potentiels conflits d'intérêts au niveau des représentants publics, au niveau national et régional.
Selon certaines ONG comme Transparency International, la corruption est également présente dans les institutions européennes. Or, cela n'apparaît pas dans ce rapport.
Ce n'est pas vraiment possible d'être juge et accusé en même temps. Ça n'aurait pas eu beaucoup de sens d'avoir un chapitre à ce stade sur les institutions européennes, car il y a très peu d'études au niveau international. Et il y a très peu d'expertise extérieure sur l'analyse de la corruption dans les institutions européennes. C'est pour ça que nous avons décidé d'ajouter un chapitre sur les institutions européennes dans la prochaine publication, qui sera dans 2 ans. Justement, sans avoir à disposition les éléments d'évaluation des parties tierces, c'est très difficile pour nous-mêmes de nous auto-évaluer. Ça serait un exercice, franchement, pas trop crédible.
Monsieur Tchirkone, merci. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Cecilia Malmström, commissaire européenne chargée des affaires intérieures.
Effectivement, la Commission s'est bien gardée de se pencher sur son propre cas. Et pourtant, les institutions européennes sont elles aussi gangrénées par des phénomènes de corruption. L'Irlandaise Emily O'Reilly, médiatrice européenne, appelle la Commission à balayer devant sa porte. Elle souligne qu'elle reçoit chaque année de nombreuses plaintes concernant les institutions, notamment des accusations de conflits d'intérêts. Sur les 2500 plaintes déposées l'an dernier, 450 ont donné lieu à des enquêtes. L'une d'elles, toujours en cours, vise d'ailleurs directement la Commission. Carrefour Europe, une émission à réécouter également sur notre site dw.de/français. Et si vous souhaitez réagir, vous pouvez bien évidemment le faire sur notre page Facebook ou par SMS. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité européenne.